Les infos à Washington.
Au micro, Nani Talani, il est 17h à Accra, c'est au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Bienvenue à ce journal. Le Maroc a officiellement demandé ce vendredi à réintégrer l'Union africaine qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe saoudite démocratique, connue aussi sous le nom du Sahara occidental, que le Maroc considère comme une partie de son territoire. L'indépendance de cette ancienne colonie espagnole annexée par le Maroc avait été proclamée par le Front pour la libération du Sahara occidental, créé en 1973. Après des années de lutte armée, un cessez-le-feu avait été proclamé en 1991 pour le roi Mohamed V. Le moment est venu pour que le Maroc, le roi Mohamed VI, le moment est venu pour que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle. Toutefois, le Maroc estime que cette décision de réintégrer l'Union africaine ne signifiait pas son renoncement à ses droits sur le Sahara occidental. Et son retour au sein de l'Organisation panafricaine doit être validé par un vote au sein de la Commission de l'Union africaine. En RDC, à Kinshasa, la délégation d'opposition au dialogue national censée résoudre la crise politique a suspendu sa participation à ce forum après les violences meurtrières du début de la semaine dans la capitale. Vital Kamere.
Nous avons reporté notre participation aux travaux de la plénière parce que nous estimons qu'à cette phase des travaux, nous sommes arrivés à un moment où certaines options doivent être levées. Nous devons tous nous mettre d'accord que le temps du dépassement du mandat, ça doit être le temps nécessaire pour organiser les élections. Pas pour donner l'impression que nous sommes en train de prolonger le mandat ou donner un nouveau mandat. Deux, nous devons nous mettre d'accord que le principe de l'alternance au pouvoir ne doit pas être remis en cause. Trois, nous devons être sûrs que techniquement et politiquement, la période que nous allons choisir va correspondre aux attentes du peuple congolais. Et nous voulons, nous, régler nos problèmes par la voie pacifique. Et nous voulons dire donc qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue. Mais le dialogue ne doit pas être un lien de compromission. Ça doit être un lien de compromis pour l'intérêt général avant tout. Nous devons avoir un calendrier qui va faire partie intégrante de l'accord que nous allons signer, qui va préciser la date de la convocation du scrutin, la date du scrutin présidentiel combiné avec les autres scrutins et la date de passation des pouvoirs conforme à la Constitution. C'est 10 jours après l'élection. Nous devons avoir l'alternance au pouvoir. Et il est clair que nous ne sommes pas venus ici pour modifier la Constitution. L'actuel président ne sera pas candidat à sa propre succession.
Au Mali, la mission de l'ONU a annoncé ce vendredi avoir découvert une importante cache d'armes près du lieu de combat meurtrier il y a une semaine autour de Kidal, dans le nord-est du pays, entre groupes signataires de l'accord de paix. Cette cache d'armes abritait également un important stock de munitions dans des roquettes utilisées lors d'attaques indirectes de villes ou la fabrication d'engins explosifs improvisés, selon un communiqué publié par la mission de l'ONU, mais qui ne donne aucune indication sur le groupe auquel ces armements pourraient appartenir. Cette annonce intervient 3 jours après une mise en garde de la médiation internationale au Mali, conduite par l'Algérie, qui a agité la menace des sanctions ciblant les responsables du blocage du processus de paix et notamment des violences autour de Kidal.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Radio Excelsior à Atakpamé et sur Canal FM à Lomé.
Au Gabon, c'est la psychose pendant qu'on attend la décision de la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoral entre le président sortant Ali Bongo Ondimba et son rival Jean Ping. Des camions transportant des parachutistes et des soldats de la garde républicaine, les armes bien en évidence ainsi qu'un blindé patrouillaient ce vendredi matin. Jean-Roger, un Libreville-lois, réagit.
Quelques heures, on va nous donner les résultats de la Cour constitutionnelle et le pays est quadrillé avec des chars partout de la GR, d'accord ? On est dans la psychose, on a peur. On veut prendre notre argent, pouvoir faire nos provisions. Nous avons nos familles à donner à manger si jamais le pays se trouvait dans une situation de chaos.
En marge de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU, de nombreux manifestants en profitent pour se faire entendre. Le point avec notre envoyé spécial, Timothée Donongmaï.
Dag Amaskil Plaza, du nom du deuxième secrétaire général de l'ONU, mort dans un accident d'avion en septembre 1961, est un petit jardin public en face du siège de l'ONU à Manhattan. C'est aussi la tribune où de nombreux manifestants venus du monde entier tentent de se faire entendre. Mamadou Keïta, président du Conseil des Maliens et des États-Unis, et ses compatriotes sont là pour dénoncer le retard dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé il y a un peu plus d'un an dans leur pays.
Peut-être que les Nations Unies peuvent donner des explications. Peut-être le retard, c'est dû aux Nations Unies ou bien les mouvements rebelles qui ne sont pas de bonne volonté. Ou bien ça peut être la faute du gouvernement malien, nous on ne sait pas.
Juste à côté, un groupe de Togolais de la diaspora s'apprête à quitter les lieux après avoir crié toute sa colère contre le président Faure Gnassingbé qu'ils accusent de s'accrocher au pouvoir. Classico Koutoglo, administrateur de système de santé et porte-parole du mouvement Mobilisons-nous.
Nous voudrons dire à l'opinion internationale, l'Union africaine, le gouvernement américain, l'OU à la CDAO, de dire en force de limiter le mandat dans les mois à venir. Mais s'il ne le fait pas, nous allons chercher les moyens lourds pour le faire partir.
Même colère chez cette poignée de Vénézuéliens qui s'époumonent contre le président Nicolas Maduro Moros, élu en 2013 pour succéder au président Hugo Chavez, dont il était le vice-président. Par solidarité, quelques Togolais se joignent à eux.
Est-ce que tout le monde peut répéter Maduro hors du gouvernement? Plus question de Maduro, plus question de Maduro.
Il n'y a pas que de la rancœur antigouvernementale à Dak Amaskil Plaza. Inoussa Kanu et un groupe de militants du All People's Congress, le parti au pouvoir en Sierra Leone, sont venus exprimer leur gratitude au président Ernest Bai Koroma. Eh bien, depuis qu'il a pris la tête du pays, il a stabilisé l'économie. Oui, nous avons connu la crise de l'Ebola et du reste, tout pays traverse des crises. Donc, le président s'en tire bien. À côté des Sierra Leonais, une quarantaine de juifs orthodoxes reconnaissables à leurs papillotes, ces longues mèches de cheveux qu'ils portent sur les deux côtés. Ils manifestent contre la venue du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils rejettent l'existence d'Israël, estimant que c'est la volonté divine que les juifs soient éparpillés aux quatre coins du monde. Le jeune rabbin David Feldman et sa quarantaine de compagnons sont membres de Neturei Karta International, traduisez « Juifs unis contre le sionisme ». Les peuples voisins sont hostiles à la situation politique actuelle dans l'État d'Israël. Ils n'ont aucun contentieux, aucun conflit, aucun problème avec les Juifs en tant que peuple religieux, adorateur du Tout-Puissant. Une fontaine gazouille, au loin, un carillon égrène ses notes mélancoliques. C'est la fin de la journée au Dak Amaskil Plaza. Dans un coin, une statue flambant neuf de Sainte Mère Teresa de Calcutta veille sur tous les manifestants, sans distinction de langue, de race, de conviction religieuse ou politique. Timothée Donangmaï, VOA Afrique, New York.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Des centaines de personnes ont défié le couvre-feu entré en vigueur à minuit dans la ville de Charlotte aux États-Unis et sont à nouveau descendues dans les rues pour la troisième nuit consécutive pour dénoncer l'homicide d'un noir par un policier. L'atmosphère était toutefois hier jeudi soir, à une exception près, nettement plus calme que les autres nuits, notamment parce que les forces de l'ordre se tenaient dans l'ensemble plus en retrait et avaient renoncé à faire respecter le couvre-feu pour ne pas raviver les tensions et les violences qui avaient marqué les deux premières nuits de protestation. Pour la Syrie, l'ONU a annoncé ce vendredi envisager une route alternative pour envoyer une aide au quartier rebelle d'Alep, assiégé et violemment bombardé, alors que le blocage de 40 camions d'aide humanitaire dans une zone entre la Turquie et la Syrie se poursuit. Il pourrait s'agir d'emprunter une route plus longue depuis Damas. De plus, contrairement à ce que l'ONU avait dit, l'aide humanitaire se trouvant dans les 40 camions bloqués n'allait pas être périmée lundi, mais dans plusieurs mois. Toujours en Syrie, un véritable déluge de feu s'est abattu ce vendredi sur les quartiers rebelles d'Alep, où des raids d'une violence inouïe se sont fait entendre. Le régime syrien et son allié russe sont pointés du doigt. Le bilan, 27 civils, 2 morts, dont 3 enfants. Mais le bilan pourrait s'alourdir puisque de nombreuses personnes se trouvent encore sous les décombres. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.